Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères Vincent et Bétharam, votre profession temporaire, qu'elle soit renouvelée ou commencée, vous constitue dans l'état religieux, c'est-à-dire un genre de vie stable qui deviendra permanent lors de votre profession perpétuelle. Vous vous engagez dans cet état pour tendre à la perfection évangélique, en vous proposant d'observer non seulement les commandements de Dieu, mais encore les conseils évangéliques par les vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, selon la règle d'une vie commune approuvée par l'Église. Pour nous, elle consiste en la règle de saint Augustin et les constitutions de l'ordre des frères prêcheurs. Tout chrétien, de par son baptême, est tenu de tendre à la perfection. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous le commande. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Qu'est-ce donc que la perfection ? Ici-bas, la perfection chrétienne consiste dans la perfection de la charité. Selon le commandement de notre Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Le but est donc le même pour tous les baptisés, qu'ils soient dans le monde ou qu'ils soient religieux. Seuls les moyens d'atteindre ce but sont différents. Pour l'état religieux, par l'état religieux, vous choisissez le chemin le plus court et le plus rapide pour faire votre salut, alors que les fidèles qui restent dans le monde suivent une voie plus large, plus lente pour atteindre le but. On pourrait objecter que dans le monde, on peut aussi observer les conseils évangéliques selon son état. Ainsi, saint Louis vivait selon l'esprit de pauvreté au milieu des richesses. Cela reste le petit nombre, l'exception. Quant à la chasteté, on peut l'observer dans l'état du mariage, mais l'amour humain légitime, le soin d'une famille, empêche de donner tout son cœur à Dieu. Quant à l'obéissance, qui permet d'unir notre volonté à celle de Dieu, son exercice est très large dans le monde. Même exercé pour vaquer à des choses légitimes, on en reste maître. On jouit d'une certaine liberté dans nos projets, nos décisions, et on fera très souvent notre propre volonté. Même animé de bonne volonté, que d'obstacles pour le chrétien qui vit dans le monde. Pauvre séculier, dit saint Alphonse de Ligorie, vous voudriez prier longtemps, entendre souvent la parole de Dieu, jouir d'un peu de solitude, de recueillement. Vos affaires familiales, les convenances sociales, les visites à vos amis vous en empêchent. Le religieux, au contraire, baigne dans une atmosphère spirituelle. Les sacrements fréquemment reçus, une direction suivie, la vigilance des supérieurs, la règle qui remplit ses journées d'occupations utiles et saintes, offrent pour le bien des ressources extraordinaires et apporte souvent des consolations ineffables. Et de combien de séductions la vie religieuse nous met à l'abri? S'il est très difficile aux chrétiens vivant dans le monde de pratiquer avec constance l'esprit des trois conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance, ce n'est pas le cas pour le religieux. Par les vœux, il se lie en toute liberté et s'oblige, sous peine de péché, à pratiquer ces trois conseils. Le vœu vient ainsi au secours de la bonne volonté, qui serait tentée de fléchir. Le vœu nous préserve de l'inconstance, il fixe l'âme dans un état stable. Le religieux ne se contente pas d'observer l'esprit des conseils évangéliques, mais il les vit pratiquement. Par la pauvreté, il renonce à toute possession, tout droit de propriété, tout désir d'acquisition de quelques biens terrestres. Il se libère ainsi des soucis attachés aux biens de la terre. Par exemple, s'il vient à passer devant une vitrine de magasin, lorsqu'il doit se rendre en ville, il ne sera pas sollicité par le désir de quelque achat, puisqu'il a renoncé au droit de propriété. Il ne peut pas acheter. Par le vœu de chasteté, non seulement il se protège de tout sensualisme, mais en renonçant aux joies légitimes d'une famille, il garde toute sa puissance d'aimer pour le bon Dieu. Par le vœu d'obéissance, le religieux va se libérer du plus grand obstacle à la perfection, la volonté propre, au sujet de laquelle saint Bernard dit cette phrase admirable « Enlevez la volonté propre et il n'y a plus d'enfer ». Expliquons cela avec le père Garrigou-Lagrange. L'attachement à notre volonté propre, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, est le plus grand obstacle à l'amour de conformité que nous devons avoir pour le Seigneur. Obéir saintement à une règle approuvée par l'Église et bien obéir aux supérieurs religieux comme à Dieu même qu'il représente assure cette conformité progressive avec la volonté de Dieu. L'obéissance religieuse nous fait d'abord arriver à cette conformité nécessaire à la perfection et ensuite elle nous y conserve. Cette oblation de notre liberté faite au Seigneur par amour pour lui, lui est très agréable. Elle est supérieure à celle opérée par le vœu de pauvreté et de chasteté, car c'est la meilleure part de nous-mêmes que nous lui offrons, non pas seulement les biens extérieurs et notre corps, mais nos facultés supérieures. Cher frère Vincent Abétaram, en offrant à Dieu ces trois espèces de biens que vous pouvez posséder, vous allez offrir à Dieu un sacrifice parfait qui mérite le nom d'Holocauste. Vous savez que l'Holocauste était ce sacrifice de l'Ancien Testament où l'on brûlait entièrement la victime offerte à Dieu, il ne restait rien. Par ce sacrifice, vous allez tout donner à Dieu. Il ne restera rien pour vous. Mais cette offrande de vous-même, vous comprenez bien qu'il va falloir l'actualiser chaque jour de votre vie religieuse. En quittant tout pour suivre Jésus, vous ne perdrez pas au change. Jésus est la sagesse incarnée. Il est infiniment riche de toutes sortes de biens, puisque c'est lui qui les a créés et c'est lui qui les distribue. Un fils de Saint-Dominique, le bienheureux Henri Suzeau, avait été conquis par cette divine sagesse. Et son cœur en était tellement épris qu'il grava avec un canif sur sa poitrine le nom de Jésus, en lui disant « Je vous ai imprimé sur ma chair, mais je voudrais aller jusqu'à mon cœur. Suppléez à ce qui manque et écrivez dans mon cœur votre nom avec des lettres éternelles que rien ne puisse effacer. Vos vœux, chers frères, sont comme le sceau de Jésus-Christ, imprimé dans votre cœur. C'est tout votre être qui lui appartient pour être conduit à la vie, à la vraie vie, la vie éternelle, déjà commencée ici-bas dans votre âme au baptême. En lui livrant votre volonté, vous lui livrez le gouvernail de votre âme. Il vous dit « Duc in altum, avance au large, sur l'océan divin ». Il va affermir votre petite volonté instable et la diriger vers les choses spirituelles. Il vous conduira en des régions poissonneuses et sur son ordre, par l'obéissance, vous lancerez le filet et la pêche sera fructueuse, c'est-à-dire vous sauverez des âmes. Ces trois vertus de pauvreté, chasteté et obéissance que vous pratiquerez dans l'état religieux ont une étendue plus large que les vœux. Pour vous y aider, vous aurez l'aide de trois autres vertus, la foi, l'espérance et la charité, avec lesquelles elles ont un étroit rapport. En effet, ces trois vertus théologales sont l'âme des trois vertus religieuses de pauvreté, chasteté et obéissance. Premièrement, la foi est l'âme de l'obéissance religieuse. Tout chrétien a reçu cette foi au baptême. C'est un don précieux, fondement de l'édifice spirituel, mais qui reste chez bien des chrétiens vivant dans le monde, dans la partie supérieure de leur âme, sans exercer une grande influence pratique sur l'organisation de la vie. On se rappelle les vérités de la foi dans une courte prière le matin et le soir, un peu plus le dimanche à la messe, mais elles sont comme une étoile perdue au fond du ciel. Pourquoi ? Parce que dans le monde, souvent, la vie pratique s'organise seulement selon la raison, et même parfois aussi selon les maximes du monde. Dans la vie religieuse, il en est tout autrement. La foi est l'âme de l'obéissance. Elle nous fait voir Dieu dans les supérieurs et dans leurs ordres, des ordres qui viennent de Dieu. Toute la vie du religieux, du lever au coucher, avec toutes ses activités, est déterminée par la règle, les constitutions, les ordres des supérieurs. Rien n'est laissé à sa volonté propre. Le religieux obéit à la règle parce qu'elle a été donnée par Dieu au fondateur. Elle a été approuvée par l'Église. Il obéit aux supérieurs, non pas parce que ses ordres nous semblent raisonnables ou qu'ils nous plaisent, cela arrive, mais parce que ces ordres viennent de Dieu, pour la sanctification de notre âme et le bien de la famille religieuse. La charité est l'âme de la chasteté. La vertu de chasteté est une force surnaturelle qui nous permet de dominer les plaisirs des sens qui inclinent au désordre de la concupiscence de la chair. Il y a plusieurs moyens pour nous aider à conserver et développer cette vertu. La prière, l'humilité, la mortification des sens, la prudence, la soumission à la volonté de Dieu, tous ces moyens se trouvent en abondance dans l'état religieux. Mais celui qui les surpasse et en est l'âme, c'est l'amour de Jésus-Christ, autrement dit la charité. Elle est l'âme de la chasteté. Avec l'amour de Dieu, dit saint Jean de la Croix, l'âme est forte contre la chair, son ennemi, car là où règne le véritable amour de Dieu, ni l'amour de soi, ni l'intérêt personnel n'ont d'entrée. Et saint Robert Bellarmin ne dit pas autre chose. Rien ne mortifie plus efficacement, plus rapidement, plus complètement la concupiscence qu'un vrai amour de Dieu, roi du cœur et maître de toutes ses affections. Dès que l'amour de Dieu possède totalement une âme et l'embrasse, tout mouvement charnel disparaît aussitôt et s'évanouit. Enfin, l'espérance est l'âme de la pauvreté. L'espérance est cette vertu théologale qui nous fait tendre vers Dieu en nous appuyant sur ses promesses, sur sa miséricorde, sur sa toute-puissance qui n'abandonne pas ceux qui l'implorent. Quand elle est affermie, l'espérance prend le nom de confiance en Dieu. L'espérance du chrétien dans le monde n'a pas l'élan qu'elle devrait avoir très souvent. Pourquoi ? Parce que le chrétien compte trop sur les biens temporels qu'il désire acquérir. Se faire une situation, en donner ensuite une à ses enfants, c'est légitime. Il s'installe dans le monde comme s'il devait y vivre toujours. La conséquence est qu'il désire moins Dieu et la vie éternelle. Dans la vie religieuse, la vertu de pauvreté vient dilater l'espérance. Quand on entre dans un ordre mendiant, sans revenu, on est obligé de compter sur l'assistance de Dieu, qui suscite des bienfaiteurs pour nous faire vivre. Même si une communauté est fidèle à sa vocation, il peut arriver des moments difficiles. Mais Dieu n'a jamais permis que ses amis meurent de faim, ou soient dans une indigence extrême qui les empêche de remplir leur mission. Nous en avons de nombreux exemples dans la vie des saints, dans la vie de Saint Dominique, mais prenons un exemple plus récent pour montrer que le Seigneur vient au secours des religieux qui ont confiance en lui. Cela se passait en Normandie pendant la guerre de 1870 contre les Prussiens. La supérieure générale des Sœurs de la Miséricorde des écoles chrétiennes, Mère Placide, qui résidait au couvent de Saint-Sauveur-le-Vicomte, voit arriver des sœurs de son institut qui fuyaient les régions envahies par les Allemands. Or, le couvent n'avait que des ressources fort limitées. De plus, quelques jours après, l'autorité militaire demande à Mère Placide de recevoir 150 soldats blessés pour les soigner et les secourir. Quelques religieuses pensaient tout bas, « Nous allons toutes mourir de faim ». La Mère Placide, calme et confiante en Dieu, dit à l'une de ses filles, « Allez mettre cette image de notre mère fondatrice dans les deux mesures de blé qui nous restent et mettez le moulin en marche pour avoir la farine nécessaire pour faire du pain. » On continua ainsi à moudre le blé plusieurs mois. Il y eut d'abord une multiplication du froment, mais aussi multiplication de la viande et du cidre, attestée par de très nombreux témoignages au procès de béatification de la Mère Placide. Cet exemple montre bien que la foi, l'espérance et la charité sont l'âme des trois vœux. La foi qui fait voir la volonté de Dieu dans l'ordre de l'autorité militaire, la charité qui voit Jésus-Christ dans ses soldats blessés et affamés, dans ses sœurs réfugiées, l'espérance de la toute-puissance divine qui vient en aide à ceux qui se dévouent à son service, au service de Dieu, et qui mettent toute sa confiance en lui. Chers frères Vincent et Bétharam, en ce jour de votre profession, que la très sainte Vierge Marie, mère de notre ordre, et notre Père Saint Dominique, vous accorde cette foi, cette confiance et cet amour de Dieu qui vous aideront à actualiser chaque jour de votre vie cette donation de tout vous-même à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.